Le magazine des Nations Unies. Bonjour, bienvenue à ce magazine des Nations Unies et tout de suite les titres. La communauté internationale a commémoré hier la journée internationale de la paix. En RDC, la paix demeure encore une denrée rare à cause de l'insécurité récurrente dans l'Est. Quel bilan fait la MONUSCO de son action en faveur de la paix dans ce contexte troublé de ces dernières années? Les réponses dans cette édition. Plus de 500 enfants sortis des groupes armés au Katanga, un exploit signé UNICEF. L'agence onusienne récolte le fruit d'une campagne de sensibilisation menée auprès des communautés ces 6 derniers mois à travers le pays. Le point dans un instant avec Alessandra Dantis, notre invitée. Et écoutez...
Je travaillais en France, j'ai été journaliste en France, à la fois en presse écrite, à la télévision. Parallèlement à ça, j'enseignais le journalisme. Et avant de venir au Congo, je suis allé à Madagascar dans le cadre d'un travail de recherche.
Cette voix, vous la connaissez peut-être pas, nous allons la découvrir ensemble. Ce sera dans notre rubrique Autoportrait.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour. Samedi 21 septembre, la communauté internationale a célébré la Journée internationale de la paix. Où en sommes-nous avec la paix en RDC et quel bilan la MONUSCO fait-elle de son action en faveur de la paix dans ce pays? La question est revenue lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies, mercredi dernier. Écoutez la réponse du colonel Félix Prosper-Bass, porte-parole militaire de la MONUSCO, au micro de Jean-Pierre Elali Coco.
Il faut convenir avec nous que l'ouest de la République démocratique du Congo aujourd'hui est stable. Depuis un certain temps, nous avions beaucoup d'événements dans la forêt de Tchela, dans le Bas-Congo. Nous avions des incidents liés à la présence des Ényélé, mais convenons quand même que l'ouest est calme depuis fort longtemps, hormis des cas de banditisme qui sont observés un peu à Kinshasa. Maintenant, quand on va un peu vers l'est, à commencer par la province orientale, conviendrait avec moi que depuis un certain temps, carrément en province orientale, les activités de Maïma et Morgan sont vraiment très réduites. Vers Bouya, Mahagi, Arou, nous avons vu qu'il y avait une émergence de certains groupes armés depuis un certain temps, mais les actions combinées aussi bien de la force que des FRDC ont pu quand même contenir, si vous voulez, ces groupes armés dont on ne parle plus beaucoup. En descendant un peu plus bas vers le sud du territoire du Rubu, où sévit un peu le front de résistance patriotique de l'Ituri, à savoir Cobra Matata et ses miliciens, donc depuis que Cobra a déserté l'armée congolaise en 2010, il est reparti, il a repris le commandement. Les combats ont repris depuis 3 semaines ou 4 semaines avec Cobra Matata et aujourd'hui les FRDC sont en train vraiment de progresser dans la bonne voie. Au sud et au nord Kivu, il y a une foultitude de groupes armés comme vous le savez, mais nos actions combinées au nord Kivu ont été assez payantes ces jours derniers avec l'attaque du FRDC. Au sud Kivu, nous contrôlons la situation parce que nous y menons 11 opérations unilatérales. Au nord Kivu, 6 opérations unilatérales. Au Katanga, où nous n'avons pas beaucoup de force. Aujourd'hui, les efforts qui sont déployés par le bataillon ghanéen déployé à cette zone-là font que la situation est un peu stable. Donc, de manière très globale, tout n'a pas été fait, tout n'a pas été concluant, mais beaucoup a été fait. Et aujourd'hui, la situation sécuritaire, on peut dire, est un peu meilleure qu'il y a quelques temps.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Club UNESCO, Association UNESCO, École associée de l'UNESCO, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces structures locales partenaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. En marge d'une journée porte ouverte à Kinshasa, le secrétaire permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO en RDC explique ici le rôle de cette institution et de ses structures partenaires. Lazare Liema répond aux questions d'Honoré Missinga Kalala.
Monsieur Lazare Liema, bonjour.
Bonjour.
Comment fonctionne une commission nationale pour l'UNESCO?
Nous devons nous référer à l'article 7 de l'acte constitutif de l'UNESCO qui stipule que chaque État prendra les dispositions appropriées à sa situation particulière pour associer aux travaux de l'organisation les principaux groupes nationaux qui s'intéressent aux problèmes d'éducation, de recherche scientifique, de la culture et de préférence en constituant une commission nationale où seront représentés les gouvernements et les groupes. En d'autres termes, la commission nationale constitue une plateforme où les gouvernements et la société civile, les ONG, se retrouvent la main dans la main pour parler de l'UNESCO et de ses objectifs. Généralement, l'UNESCO travaille pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Une commission nationale, c'est d'abord un organe consultatif du gouvernement en matière de coopération avec l'UNESCO qui joue le rôle d'organe conseil et dans un second temps, il est organe de liaison et d'information parce qu'il joue le rôle d'interface entre l'UNESCO et l'État membre. Il est aussi organe d'élaboration parce que lorsque l'UNESCO se réunit en conférence générale ou au conseil exécutif, il demande le point de vue du gouvernement.
Oui, puisque vous parlez de la société civile, c'est ce qui explique la présence ou l'existence d'autres institutions du genre, club UNESCO, école associée. Quelle est leur mission? Ça veut dire quoi, club UNESCO, école associée?
Les clubs UNESCO, les écoles associées et les bibliothèques associées, j'ajoute une autre structure de bibliothèques associées, sont pratiquement des militants bénévoles au service d'un idéal. L'idéal, c'est contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationale par les actions qu'ils mènent au niveau national. Ils sont militants bénévoles parce qu'ils vivent de leurs moyens et de leurs ressources, parce que l'UNESCO n'apporte pas les ressources à ces organisations non gouvernementales, et les écoles associées et les bibliothèques associées, les associations comme les clubs UNESCO, contribuent aussi à la compréhension internationale, à la formation et à l'éducation de leurs groupes, pour qu'au niveau national, nous formions les citoyens internationaux sans distinction de race ni de religion, que la Charte des Nations Unies a adoptée lors de sa création en 1945. Donc voilà un peu le rôle de Club UNESCO, école associée, bibliothèque associée.
Quel est le rapport entre ces structures et la Commission nationale pour l'UNESCO?
La Commission nationale, voire même l'UNESCO et ses organismes sont des partenaires qui militent pour les mêmes objectifs, contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Une école associée, ça veut dire quoi exactement?
Une école associée, c'est d'abord une école publique ou privée qui s'est tout simplement engagée à promouvoir la paix, à promouvoir la compréhension mutuelle. Il n'est pas une école de l'UNESCO. Même les clubs UNESCO ou les bibliothèques associées de l'UNESCO ne sont pas des clubs ou des bibliothèques ou des écoles associées de l'UNESCO. Ce sont tout simplement des écoles qui défendent l'idéal de l'UNESCO. Ils se sont engagés de manière bénévole à défendre l'idéal de l'UNESCO, celui des contenus au maintien de la paix. Pour l'école associée, en dehors des cours qu'ils reçoivent dans le cadre du programme national, ils ajoutent certains éléments sur la compréhension mutuelle, la protection par exemple de l'environnement, l'éducation à la paix, l'éducation aux droits de l'homme, au cours des activités scolaires et parascolaires. Donc, pour que ces élèves qui sont formés dans ces écoles soient comme des citoyens internationaux qui n'ont pas de race, qui n'ont pas aussi de religion.
Est-ce qu'il y a des conditions pour devenir une école associée?
D'abord, il faut être une école publique ou privée, que l'État reconnaît, et vous exprimez le besoin d'adhésion. Il y a un formulaire que l'UNESCO met à la disposition des commissions nationales pour remettre à ces écoles. Et ces écoles remplissent, on envoie ce formulaire à l'UNESCO et le directeur général ou la directrice générale aujourd'hui signe un certificat d'adhésion et la commission nationale est chargée alors à remettre ces certificats d'adhésion à l'école et l'école va avoir une documentation en provenance de l'UNESCO pour lui donner par exemple certains programmes, certaines actions à mener. Donc voilà un peu comment ces choses se présentent.
Et comment peut-on former ou avoir un club UNESCO?
Il faut d'abord être immergé. Il y a des clubs associations, il y a aussi des clubs à l'école. Lorsque vous êtes une école, vous devenez club UNESCO. Si vous êtes une école privée, vous devez avoir votre arrêté d'agrément. Il existe une plateforme appelée Fédération des associations de clubs UNESCO. Vous devez vous adresser à la Commission nationale si vous voulez une association. Vous devez avoir alors le document que l'État vous accorde en termes de statut notarié, autorisation de fonctionnement, et ainsi de suite. Ces dossiers, vous les présentez à la Commission nationale et la Commission nationale demande à la Fédération qu'il y ait une plateforme pour pouvoir vous visiter, voir si effectivement vous avez une existence réelle sur le terrain. Et on va devoir vous accorder une attestation de reconnaissance comme étant un club UNESCO. Mais on est d'abord association. ONG.
Et à ce jour, la Commission nationale pour l'UNESCO, RDC, a répertorié combien de clubs UNESCO, combien d'écoles associées.
Combien de bibliothèques associées aussi. Donc, pour les clubs UNESCO, aujourd'hui, nous répertorions plus ou moins 380 clubs UNESCO. Et pour les écoles associées, plus ou moins 130 écoles associées. Pour les bibliothèques associées, nous avons plus ou moins 80 bibliothèques qui sont scolaires, universitaires et bibliothèques privées qui ont adhéré à ces réseaux.
Lazare Lima, merci.
Merci beaucoup.
Le bâtiment du Conseil de la jeunesse de Kinshasa est désormais devenu un espace citoyen après sa réhabilitation par le CNUD dans le cadre du projet Forum d'éducation et de sensibilisation des jeunes à la gouvernance démocratique. La remise de cet ouvrage réhabilité et des équipements offerts a eu lieu jeudi. En tout, 10 ordinateurs fixes, 10 onduleurs, 3 imprimantes, une table de conférence, 20 chefs sur Paris visiteurs, 6 chaises PVC noires, une armoire grise et 6 bureaux Vestalis ont été remis. Enfin, les humanitaires restent préoccupés par la situation dans le sud d'Irumu. Nous sommes en Ituri. Quelques 80 000 personnes se sont encore déplacées depuis le 22 août dernier dans cette partie du pays, qui fait un total de 120 000 personnes affectées par les conflits dans cette partie de la province orientale. Et pour cela, les humanitaires ont besoin de 2 millions de dollars au moins pour entreprendre des interventions et faire face aux besoins additionnels de ces populations.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Plus de 500 enfants sortis des groupes armés la semaine dernière au Katanga, c'est le résultat d'une campagne de sensibilisation menée depuis 6 mois par l'UNICEF et ses partenaires auprès des communautés de cette province. Alessandra Dantis, chef de programme protection de l'enfance à l'UNICEF, parle du succès de cette opération dans un entretien avec Jean-Pierre Elali Coco. Suivez.
Madame Alessandra Dantis, bonjour.
Bonjour.
L'UNICEF a mené depuis mars dernier une campagne de démobilisation des enfants dans les groupes armés. À 6 mois, plus de 500 enfants sont sortis des groupes armés au Katanga. Est-ce que vous êtes satisfaite, madame, de ces résultats?
Ce n'est pas vraiment une campagne de démobilisation. La démobilisation, c'est un effort formel et légal. L'UNICEF, en fait, fait de la sensibilisation communautaire avec les communautés, les chefs de famille, les ménages, les organisations de la société civile et les organisations à base communautaire. Et donc, c'est grâce à cette sensibilisation qu'il y a un certain nombre d'enfants qui sont sortis ces derniers mois, avec un pic dans le mois d'août, des rangs des groupes armés au Katanga, effectivement. Oui, nous sommes très satisfaits des résultats. Nous menons ce genre de campagne de prévention et de sensibilisation un petit peu partout dans le pays. Et cette fois, on a eu un excellent retour. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a plus de 500 enfants. Et beaucoup de filles qui sont sorties des rangs des groupes armés au Katanga.
Mais cette sortie, c'est une chose, madame, non, la réinsertion en est une autre. Comment l'UNICEF assure-t-il la prise en charge des enfants sortis des groupes armés?
Pour l'instant, au Katanga, on a sorti environ 526 enfants dans le dernier mois ou mois et demi. Et il y en a 436 qui sont en prise en charge transitoire. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Une fois que les enfants sont sortis des groupes armés, les partenaires de l'UNICEF qui sont sur le terrain prennent en charge ces enfants. Donc, les mettent dans des structures de prise en charge transitoire.
On parle des centres de transit.
Si, des centres de transit et d'orientation. En fait, CTO. Ou sinon aussi, on a une autre option ici en RDC qui est souvent utilisée, c'est celle des familles d'accueil. Et qui prennent en charge ces enfants. Qui donc sont réintégrés déjà au niveau communautaire avant d'être réintégrés dans leur famille. Donc qu'est-ce qui se passe? Soit en CTO ou soit en famille d'accueil, l'enfant il est pris en charge de façon temporaire, de façon transitoire. Donc ça veut dire que il a accès à des examens médicaux ou à des soins médicaux s'il est malade. Il a accès à certains appuis psychosociaux parce que c'est toujours des enfants qui ont subi certains traumas, certaines violences et certains abus. Il a aussi droit à une série d'activités éducatives qui en fait préparent à la réinsertion durable dans leur communauté, dans leur famille d'origine.
Et comment l'UNICEF participe-t-il à cet encadrement?
C'est pas l'UNICEF qui fait ceci directement, c'est les partenaires de l'UNICEF. Par exemple, au Katanga, on travaille avec des ONG locales comme Réconfort ou APD. Au Sud-Kivu, on travaille avec BVS.
Vous appuyez ça?
Oui, absolument.
Avec des moyens logistiques
On appuie ça avec des moyens financiers, bien évidemment, avec des moyens logistiques, mais aussi avec une certaine assistance technique, dans le sens que l'UNICEF est garant des standards de prise en charge transitoire par rapport aux ONG locales et aux partenaires, en fait, qui font cette prise en charge.
Et on peut dire que jusque-là, ça marche bien ?
La prise en charge transitoire, normalement, oui, elle marche bien, surtout quand elle est communautaire, donc quand elle est faite dans les familles d'accueil. Pourquoi surtout quand elle est communautaire ? Parce qu'évidemment, les enfants sont déjà réintégrés dans un environnement communautaire qui est très proche de leur famille, etc. Le centre de transit est la réponse privilégiée ou la solution privilégiée quand on a un grand nombre d'enfants qui sortent tout d'un coup, effectivement. Tandis que quand il n'y a pas beaucoup d'enfants, ce qu'on privilégie, c'est, on l'appelle prise en charge mixte dans les familles d'accueil et en partie dans les centres transitoires.
Parmi ces enfants, il y a aussi des filles. Existe-t-il des dispositions particulières pour leur insertion par rapport aux jeunes garçons ?
Tout à fait. Déjà, en prise en charge transitoire, les filles sont dans des CPO séparés. Elles ne sont pas mélangées avec les garçons. C'est clair qu'on ne veut pas continuer des situations de promiscuité ou d'abus ou de violation des droits des filles. Elles ont droit, je m'excuse, à une prise en charge psychologique très spécifique parce que les abus et les violations des droits dont elles ont été témoins sont souvent de nature sexuelle. Donc, les partenaires sont formés à leur donner une prise en charge psychologique spécifique.
Tout à l'heure, vous avez parlé d'une prise en charge provisoire, transitoire, c'est-à-dire pour combien de temps ?
Donc l'UNICEF et ses partenaires travaillent dans la démobilisation des enfants et dans la prise en charge transitoire des enfants affectés par les conflits armés sur la base d'un cadre opérationnel qui n'est pas un document UNICEF, mais un document du gouvernement de la RDC signé par tous les partenaires. Donc dans ce document, effectivement, la prise en charge transitoire, elle est explicitement limitée à une période de maximum 6 mois. Ceci dit, la réunification familiale prend du temps, parce que le tracing des familles prend du temps aussi, surtout dans des zones qui sont affectées par des conflits, où les familles et les communautés sont en déplacement.
Justement, madame, comment l'UNICEF s'y prend-il ?
L'UNICEF ne fait pas ça directement, mais l'UNICEF s'appuie sur ses partenaires.
Et comment cela s'est passé concrètement ?
Donc, c'est les partenaires de la société civile, mais c'est aussi le CICR, qui fait souvent du tracing familial interprofessionnel. Donc qu'on en trouve par exemple des enfants à Kinshasa, mais les enfants viennent des provinces d'ailleurs dans le pays, ou interpays, donc des enfants par exemple qu'on trouve au Nouébaouélé, mais qui viennent d'Ouganda ou du Centrafrique ou du Soudan. Et une fois que la famille est trouvée, la réunification ne se fait pas immédiatement, mais il y a une période de ce qu'on appelle médiation familiale et communautaire, parce que ce qu'on veut éviter, c'est de la stigmatisation et de la discrimination. Une fois que les enfants rentrent dans leur communauté, dans leur famille, on veut éviter cette stigmatisation due au fait qu'ils ont été dans des groupes armés pendant une période plus ou moins longue. Quand la médiation, les résultats de cette médiation sont positifs, l'enfant est réintégré. Et après la réintégration, où il y a un processus de réintégration au niveau de l'éducation ou une réinsertion économique, socio-économique, il y a toujours un suivi de la part des partenaires pour faire en sorte que tout se passe bien, évidemment avec la famille, avec leur communauté, mais que en fait, cette réinsertion au niveau de l'éducation et au niveau économique se passe bien dans le long terme et soit pérennisable dans le long terme.
Selon une dépêche de l'AFP, le phénomène enrôlement d'enfants dans les groupes armés est plus fréquent au nord Katanga plutôt qu'au sud de cette province. Comment expliquez-vous ce phénomène ?
Bon, je ne dirais pas qu'il est plus fréquent. Effectivement,
selon l'AFP.
Oui, de toute façon, d'un point de vue général, le recrutement est plus fréquent dans des zones où il y a plus d'activité des groupes armés.
Alors, comment se passent les choses dans d'autres provinces ?
Disons, les résultats au Katanga sont très importants et sont très criards, dans le sens qu'ils parlent beaucoup, parce que dans l'espace de peut-être 6 ou 7 semaines, si nous avons eu une sortie massive d'enfants. Je vais dire, tout à l'heure, je parlais de 528 enfants, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça qu'on parle tellement du Katanga. Ceci dit, effectivement, il y a des campagnes de sensibilisation à travers le pays.
Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent ? Parce que les enfants dans des groupes armés ne sont pas aussi faciles. Il y a quand même une politique de dialogue avec les groupes armés que vous menez.
Nous, on ne dialogue pas directement avec les groupes armés. Ce n'est pas le mandat de l'UNICEF. Donc, nous, en fait, ce qu'on fait, on dialogue avec les communautés. Donc, parce qu'on a une présence sur le terrain, on arrive avec nos contacts avec les leaders religieux et les leaders traditionnels, on arrive à faire passer certains messages, par exemple, si à travers les radios communautaires ou les radios de proximité.
Madame, nous vous remercions de votre disponibilité.
Mieux nourrir pour mieux étudier, c'est le projet des cantines scolaires en cours au Nord Kivu. Ce projet du programme alimentaire mondial PAM consiste à offrir une collation alimentaire aux écoliers pendant les heures de cours chaque jour. Objectif, les rendre plus vigoureux et plus assidus en classe. Notre nouvelle en province justement s'intéresse à un cas de figure. Denise Oukesso nous brosse dans ce dossier comment marche la cantine scolaire à l'école primaire Alléluia de Goma au quartier de Mugunga.
Il est 11h, l'heure du repas a sonné à l'école primaire Alléluia au quartier Mugunga. Plus de 1200 élèves répartis dans 6 salles de classe attendent les repas chacun dans sa classe. Ici, des repas chauds sont servis chaque jour ouvrable. C'est là pendant toute la durée de l'année scolaire. La ration est composée de céréales enrichies, de légumes secs, d'huile végétale enrichie et de sel iodé. Chaque élève reçoit une boule de choufou accompagnée de haricots à sauce. Une équipe de femmes se mobilise pour servir.
Bon appétit.
Ces élèves demandent toutefois aux PAM de varier les repas.
Alors, tu n'es pas de la matière, tu pas de la cabane du jour, tu vas chez elle.
L'alimentation scolaire a toutefois un fort impact sur la scolarisation. À ce jour, le taux de fréquentation dans des écoles avec cantine est élevé, témoigne le directeur principal de l'EP Alléluia. Monsieur Moutéboa Didier ajoute que les enfants nourris se concentrent mieux et leur capacité d'apprentissage s'améliore.
Ce sont d'abord des enfants ici, des familles et des mini. Alors les petits repas les aident d'abord pour les problèmes d'acidité. Et aussi, comme ce sont des enfants ici, des familles vulnérables, familles de déplacés, qui n'ont pas la chance d'avoir à manger durant la journée. Parce que quand ils reviennent maintenant de l'école et a pris ses repas, à la maison, ils ne dérangent plus la famille pour demander à manger.
Ce programme est aussi une motivation pour les enseignants qui reçoivent un repas comme les élèves, tandis que les femmes de ménage reçoivent également des dotations à vivre. Il est exécuté par deux ONG partenaires du PAM, LWF et World Vision. Mwesho Nyashinde de LWF nous explique comment est exécuté ces partenariats.
Le projet, nous le mettons en exécution avec le comité des parents des écoles. Il y a le PAM qui nous donne de la nourriture. Même les ustensiles de cuisine, nous les recevons du PAM. Hein.
Initié depuis 1996 par les PAM au Nord Kivu, les programmes d'alimentation scolaire visent entre autres à aider le gouvernement à améliorer le taux de fréquentation scolaire. Le programme est développé dans plus de 200 écoles à travers la province du Nord Kivu. Il est mis en œuvre dans les zones exposées à l'insécurité alimentaire où le taux de scolarisation est bas et dans les zones de retour de déplacés. Il faut signaler que le nombre d'écoles bénéficiaires du programme d'alimentation scolaire a été réduit. Il est passé de 300 l'année dernière à 200 pour cette année. Les PAM évoquent comme motif principal les contraintes budgétaires. Merci, Denise Oukesso.
Magazine de la Chambre. Portrait du jour.
Je m'appelle Bernard Conchon, je suis l'adjoint du chef d'antenne de Radio Capi et je travaille pour la Fondation Hirondelle dont j'ai été le chef de projet pour le Congo. Je suis marié, père de deux enfants, une fille qui va avoir 16 ans et un petit garçon qui lui a eu il y a quelques mois 6 ans. Donc tous deux avec leur maman vivent à Madagascar et nous sommes une famille mixte, donc moitié française, moitié malgache. Donc nous vivons à Madagascar, ce qui explique que de temps en temps, je me rende à Tananarive où vit ma famille. Et donc je partage mon temps entre cette grande île au cœur de l'océan Indien et l'Afrique continentale avec l'Afrique centrale et plus particulièrement avec le Congo et Kinshasa. Ma formation, j'ai étudié le droit et surtout j'ai maintenu du lien avec l'université puisque j'ai été un certain nombre d'années avant de venir ici maître de conférence à l'université de Strasbourg où j'enseignais le journalisme dans une école liée à l'université qui s'appelle le Centre universitaire d'enseignement du journalisme de Strasbourg, qui est une grande école de journalisme en France, qui existe maintenant depuis une petite soixantaine d'années. Donc je suis, comme je vous le disais, responsable de la Fondation Hirondelle. Alors, pour les auditeurs, il faut savoir que la Fondation Hirondelle est partenaire des Nations Unies pour Radio Okapi et depuis le début accompagne la radio des Nations Unies ici au Congo et apporte un appui à la fois sur le plan des moyens mais aussi ce qu'on appelle le conseil éditorial, ce qui apporte justement une expertise pour Radio Okapi. Donc je travaille ici depuis 5 ans. Les tâches quotidiennes, c'est d'accompagner les responsables de la MONUSCO de cette radio, de les aider sur le plan éditorial et aussi de mettre à disposition des moyens à la fois sur le plan technique, sur le plan personnel et sur le plan logistique aussi de cette radio, ce qui permet à Radio Okapi d'avoir des moyens supplémentaires additifs qui permettent à la Radio de la Paix d'être plus proche encore des auditeurs qui sont nombreux, on le sait, puisque nous avons plus de 20 millions d'auditeurs réguliers donc qui nous écoutent au moins une fois par semaine. Avant de venir ici, je travaillais en France. J'ai été journaliste en France, à la fois en presse écrite, à la télévision. J'ai également travaillé, j'enseignais le journalisme. Et avant de venir au Congo, je suis allé à Madagascar dans le cadre d'un travail de recherche que j'accomplissais à l'époque dans le cadre d'un travail produit pour l'école des hautes études. Donc je m'intéressais à des problématiques de développement et j'avais choisi à Madagascar les questions touchant à l'élevage des zébus, qui est un animal très important dans ce pays. Puis, de fil en aiguille, des amis et des journalistes que je connais et des responsables de médias, on m'a demandé de faire du conseil éditorial. Donc j'ai conseillé des groupes de presse là-bas, également contribué à la création de certains supports qui existent encore aujourd'hui, de même que un certain nombre de programmes à la télévision ou à la radio. Et donc ça m'a donné cette envie peut-être de poursuivre. Et c'est là que la Fondation Hirondelle m'a proposé de venir ici au Congo et justement faire ce travail à l'échelle de Radio Okapi. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé à Kinshasa il y a maintenant 5 ans. Quand je ne travaille pas, bien j'essaye de me reposer parce que le travail à la radio, on le sait, est assez prenant, parfois un peu fatigant, mais on a la chance de faire un travail qui permet d'oublier parfois la fatigue. Donc quand je ne travaille pas, je lis, j'écoute de la musique, ce sont mes principales activités. Puis j'aime bien faire aussi la cuisine, c'est le côté français, donc j'aime bien ici le week-end préparer un certain nombre de choses que je mangerai dans la semaine, donc je prépare en amont, donc ça me permet aussi d'occuper ce temps libre que j'ai, donc avec cette particularité que sur le plan de la cuisine je suis végétarien, donc je ne mange pas de viande, pas de poisson, je prépare des plats, donc de recettes végétariennes que je mange ensuite pendant la semaine quand j'arrive le soir chez moi. J'habite pas très loin de Radio Okapi et mes projets d'avenir, ben c'est, ça va vite arriver puisque je dois quitter le Congo pour aller au Mali. La Fondation Hirondelle s'est impliquée là-bas. Nous avons un projet qui s'appelle le Studio Tamani, qui est une plateforme de production d'informations et de magazines en partenariat avec un certain nombre de radios maliennes. Donc, qui reprennent ces programmes et qui les diffusent. À terme, ce programme prévoit d'être diffusé sur une une soixantaine de radios maliennes. Donc je vais quitter Kinshasa, le bord du Congo, les rivages du Congo, pour aller découvrir ceux du fleuve Niger. Donc je vais découvrir une autre région d'Afrique qui n'est plus l'Afrique centrale, donc pour l'Afrique du Sahel, et donc trouver et rencontrer d'autres expériences journalistiques et d'autres réalités aussi africaines. Donc je dois partir dans quelques jours. Merci.
Magazine des Nations Unies. Le soir des Nations Unies.
Quel rôle les acteurs humanitaires pourraient-ils jouer dans la résolution des conflits dans la province orientale et à quoi peut-on s'attendre lorsque certaines ONG œuvrant dans l'humanitaire bouclent leurs valises les unes après les autres? Question du journaliste François Mukanda de Radio Elikia. Fabienne Pompée du PAM lui répond.
Oui, la première question qui concerne la prévention, si je comprends bien les conflits, qu'est-ce que les acteurs peuvent faire? C'est pas le rôle des acteurs humanitaires d'aller résoudre les conflits. Les acteurs humanitaires sont là pour apporter une aide d'urgence souvent aux personnes qui en ont besoin. Après, il y a d'autres organisations qui s'occupent de faire de la médiation. Il y a beaucoup d'ONG qui travaillent dans ce domaine-là. C'est pas forcément le rôle premier des acteurs humanitaires qui est de venir en aide aux populations, enfin, à s'occuper des conséquences. Et c'est là où le problème donc, qu'on venait d'évoquer est important. C'est-à-dire que, à partir du moment où la crise diminue, s'il n'y a pas de continuité entre cette aide humanitaire d'urgence et ensuite des plans de redressement précoce, de résilience, qui vont vers le, ensuite prendre le relais avec les acteurs du développement, on crée un trou où là, de nouveau, on va avoir des gens qui vont retomber dans l'insécurité alimentaire, retomber dans des situations de malnutrition, retomber dans des situations d'épidémie, etc. Et il va falloir de nouveau, à ce moment-là, remettre en route un énorme programme humanitaire, finalement revenir en arrière, parce qu'on n'a pas pu assurer cette continuité, parce que les financements étaient discontinus, puisque les bailleurs de fonds aussi choisissent parfois une urgence au détriment d'une autre. Et effectivement, il y a des crises silencieuses au Congo, qu'on vit, il y a la province orientale, il y a les Kassai, il y a d'autres endroits où il y a des crises humanitaires extrêmement sérieuses. Mais l'impact que ça a sur les organisations non gouvernementales a un impact sur nous, parce que nous, on travaille avec ces gens-là sur le terrain. Donc s'ils disparaissent, si les gens qui s'occupent des routes, nous aussi, on fait des routes de notre côté, on en a réhabilité 375 km dans le cadre du cluster logistique, mais si les autres, qui sont aussi des acteurs, sont plus là, c'est du problème pour amener les vivres, pour les autres organisations, pour amener le matériel médical, etc., etc. Donc ça a un impact sur absolument tout le monde, et le premier impact, c'est surtout sur les populations qui n'auront plus accès à cette aide d'urgence très prochainement. Il y a encore des acteurs qui sont là, mais comme on le disait, il y a une dizaine d'ONG qui sont déjà parties. Je vois qu'à Bounia, il y en a 5 aussi qui s'en vont en ONG internationale. Ce retrait important dû au manque de financement aura des conséquences sur toutes les opérations dans la région.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les détaillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Parmi les rendez-vous de la semaine, l'UNESCO organise simultanément du 23 au 26 septembre 2013 des ateliers à Kasumbalesa dans le Katanga, Kenge dans le Bandundu, Kimpese et Mwanda dans la province du Bas-Congo, dans le cadre du projet Appui aux radios locales grâce aux technologies de l'information et de la communication que l'UNESCO exécute avec l'appui du gouvernement suédois. Fin de cette émission, un grand merci de l'avoir suivi. Je suis Mila Kimbini, j'étais à la présentation avec l'assistance technique du côté de la régie de Jean-Noël Nkondo. Nicole Ngaka était à la supervision de cette émission, Jean-Pierre Elali Coco à la coordination et Honorine Senga au portage. Nous avons hâte de vous retrouver le dimanche prochain pour une nouvelle émission. Nous vous souhaitons entre-temps une excellente journée dominicale à tous.